Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de regarder ce texte extrêmement riche, ce qu'on appelle Notre Père, en termes un peu plus savants, on dit des fois l'oraison dominicale, donc la prière du Seigneur. Et on est arrivé, après le début Notre Père qui est aux cieux, au verset suivant, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai regroupé tout cela parce que il me semblait que ton règne vienne résume un peu tout cela. Quand le règne de Dieu est reconnu, quand son règne vienne, donc forcément son nom est honoré et sanctifié, et que sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Donc je préfère rester pour le moment avec l'expression que ton règne vienne. Tout au long de la Bible, on parle du règne de Dieu d'une façon ou d'une autre. On dit que Dieu est roi. Et ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de traverser rapidement la Bible en 8 petits chapitres pour comprendre comment ce thème traverse toutes les Écritures. Un petit mot d'avance. Parfois, on parle du royaume de Dieu. Les traductions plus modernes ont tendance à mettre le règne de Dieu parce qu'on a toujours peur que le royaume nous fasse penser qu'il s'agit d'un lieu géographique, un royaume avec des frontières, alors que c'est dans ce sens une des plus grandes erreurs d'avoir voulu assimiler le règne de Dieu à un lieu. Et beaucoup pensent que lorsque Constantin avait décidé que le christianisme devait être la religion officielle de l'Empire romain, que c'était le plus grand obstacle en fait pendant des siècles. À l'annonce du christianisme biblique, en quelque sorte, parce qu'on confond le lieu et le règne de Dieu. Donc, c'est pour ça que ton règne vienne, me semble une belle façon de le dire. J'insiste un petit peu avant de passer à ces 8 étapes pour dire que forcément, je dis forcément, mais tout le monde ne le pense pas. C'est que la Bible est quand même tournée autour d'un seul auteur et un seul thème, un seul sujet. Le seul auteur, bon, vous allez dire, c'est évident, c'est Dieu, mais qui a quand même écrit ce livre en passant par les êtres humains, qui chacun l'a fait avec son style, avec son caractère, etc. Mais c'est quand même Dieu qui est vraiment l'auteur des Écritures, ce qui fait que quand Jésus, par exemple, a pu parler de l'Ancien Testament, il a dit dans Jean 9, ce sont les Écritures qui rendent témoignage à mon sujet. Et puis quand il a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs, à la fin de Luc, chapitre 24, il a dit, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc on voit que dans toutes les Écritures, on parle en fait d'un même thème. Et quel est ce thème? Bon, j'essaie de le dire en une phrase. C'est Dieu, le roi de l'univers, et sa relation avec l'humanité, dont l'histoire de Jésus se trouve au centre. Voilà. Ma phrase à moi pour le dire. Donc, c'est la relation de Dieu avec l'humanité dont l'histoire de Jésus est au centre. Donc, la Bible n'est pas simplement un petit recueil de citations. Certes, il est intéressant de connaître des versets bibliques, d'en connaître un certain nombre, de les mémoriser, pourquoi pas. Mais la Bible est plus que ça. C'est vraiment une histoire hein, qui traverse. Il y a une histoire qui traverse toute la Bible. Et si on n'a pas toute cette compilation, si on n'avait que la moitié, on ne comprendrait pas grand-chose. Je lisais dans un livre récemment, l'auteur propose une histoire comme quoi il y avait deux adolescents qui voulaient tous les deux lire le même roman en même temps. Donc le papa a décidé que la meilleure chose à faire, c'est de déchirer le livre en deux et de donner la moitié à un enfant et l'autre moitié à l'autre enfant. Mais c'est sûr que ça n'a pas de sens. Parce que le premier, il va dire, bah, je vois pourquoi il y a un problème, mais si c'est un roman policier, mais je ne sais pas comment ça se termine. Et le deuxième dit, moi je vois bon comment ça se termine, mais je ne sais même pas quel est le crime, en fait. Donc il faut le tout pour comprendre. Et la Bible, c'est un tout. Et c'est pour cela, je pense que il est important de lire l'Ancien Testament au même titre que le Nouveau Testament. Donc, le thème central de la Bible, on peut dire que c'est que Dieu est roi. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et nous allons voir cela en plusieurs étapes pour essayer de voir comment ce thème se développe. 8 étapes même. Allez. Première étape, le règne de Dieu lors de la création. Donc, nous sommes dans le jardin d'Éden. Nous voyons le monde tel que Dieu l'a voulu. Nous voyons que pour nos premiers parents, pour Adam et Ève, la vie que Dieu propose est la meilleure vie possible. Parce que c'est une vie vécue sous le regard de Dieu. Donc, Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc voilà, c'est un cadre magnifique où les êtres humains sont appelés à vivre sous le regard de Dieu. Et notre vocation à ce moment-là, c'est de reconnaître la présence de Dieu, que tout vient de lui. C'est bon de pouvoir dire merci à quelqu'un. Quand on vient de manger un bon repas, c'est bon de dire merci à la personne qui l'a préparé. Dans mon cas, c'est Marie, presque toujours. Eux aussi, de pouvoir dire à Dieu merci, parce que tu as créé toutes ces choses. Donc, on prie souvent avant le repas pour le remercier, pour remercier Dieu. J'ai appris que parfois aux Pays-Bas, ils prient avant et après. Parce que d'abord par la foi et après par l'expérience, j'allais dire. Donc notre vocation, Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Donc, en tant que créateur, Dieu est le souverain, le roi légitime qui a autorité sur tout. Et la seule réponse appropriée, c'est de l'admettre. Donc, le psaume 95, verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, avec un petit dé. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Et parfois de regarder la création, oui, se mettre à genoux, pour dire, voilà, je suis tout petit, mais c'est merveilleux, c'est vraiment extraordinaire. On n'a qu'à manger une mangue pour le savoir. Mais la fin de cette citation de Psaume 95, on voit qu'il y a une petite bizarrerie. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Ah, petit problème, ça ne va pas de soi. Ça devrait aller de soi qu'on écoute sa voix. Mais le psalmiste, après avoir reconnu que l'Éternel est roi, dit, si vous pouviez écouter sa voix. Donc, ça nous pousse à aller plus loin dans le récit biblique, où cette fois-ci, on voit que le règne de Dieu est contesté. C'est une histoire que l'on connaît bien, mais je vais quand même le lire, hein, parce que c'est assez fondamental. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, mais vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, malheureusement pour Adam et Ève, malheureusement pour nous, malheureusement pour l'humanité, les êtres humains sont arrivés à la conclusion, tentés par le serpent ancien, donc c'est le diable, ils sont tentés de penser que la vie serait meilleure s'ils prenaient leur indépendance par rapport à Dieu pour décider ce qui est bien, ce qui est mal. Le résultat est catastrophique. Sans aller dans tous les détails, la séparation de l'être humain d'avec Dieu. Le résultat, c'est que ce qui devait arriver est arrivé, la mort. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. D'abord, immédiatement, la mort spirituelle. Ils sont coupés de Dieu, chassés du jardin d'Éden, avec des chérubins, avec des épées flamboyantes, mais par la suite, la mort physique. Et au chapitre 5, il y a tout un développement de génération, et chaque fois, il mourut, il mourut, il mourut, il mourut, il mourut, une dizaine de fois. Pense que c'est normal, mais c'est quelque chose d'anormal. La séparation de l'homme d'avec sa femme, parce que jusque-là, tout allait bien, mais après, ils commencent à se renvoyer la faute les uns les autres. C'est pas moi, c'est ma femme qui l'a fait. Enfin, c'est pas nouveau. Et ça continue. Donc, ce genre de réaction. Donc, ils sont pas bien les uns avec l'un avec l'autre. La séparation de l'être humain avec lui-même. On voit par exemple au verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché, donc il y a la crainte, la culpabilité, la honte. Tout cela rentre dans notre expérience humaine à tel point qu'on peut difficilement imaginer aujourd'hui, parce qu'on a connu que cela, que la vie puisse être autrement. Ça semble tellement ancré dans notre condition humaine. Et puis la séparation de l'être humain avec la création, donc l'écologie remonte jusqu'au chapitre 3, où la relation entre l'être humain et la création est plus difficile. La terre est en quelque sorte maudite, il y a des épines, des ronces, c'est à force de peine qu'on en tire sa nourriture tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces êtres humains, pourvus de langage, c'est un des éléments du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, ont utilisé ce langage pour dialoguer avec Satan, le diable, qui a mis le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et puis Ève ne cite pas vraiment ce que Dieu avait dit textuellement. Après le serpent, de nouveau le doute, vous ne mourrez pas, Dieu sait que vos yeux s'ouvriront, vous verrez la différence entre le bien et le mal. Certes, certes, mais ils l'ont fait depuis l'intérieur du mal, pas de l'extérieur. Dieu connaît la différence entre le bien et le mal, mais il est extérieur au mal. Mais l'être humain est à l'intérieur du mal parce que justement, il avait voulu décider ce qui est bien, ce qui est mal. À partir de maintenant, en quelque sorte, c'est nous qui allons fixer les règles de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ça continue jusqu'à nos jours. Donc, le règne de Dieu est contesté. Troisième étape, là, il y a une promesse que le règne de Dieu sera rétabli. Il y a des promesses. D'abord, la promesse dès le début de la Bible dans Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, c'est Dieu qui parle au serpent, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Donc, Dieu annonce en quelque sorte par cette prophétie un peu énigmatique qu'il y aura un moment où un fils d'Ève, un être humain, détruirait cet être diabolique. Une prophétie voilée de ce que Jésus va faire, qui va infliger une lourde défaite à Satan, mais au prix de souffrance, parce qu'il est mort à la croix. Donc la postérité de la femme, donc Jésus, t'écrasera la tête, mais tu lui baisseras le talon. Donc il y aurait quand même au prix de la souffrance. Et puis, l'alliance faite avec Abraham. Dieu rétablit une alliance. Bon, j'ai sauté des étapes de Noé, de la tour de Babel, etc. Mais cette promesse de l'Éternel qui dit à Abraham, Genèse 12, « Va-t'en de ton pays, parce qu'il habitait en Mésopotamie, pardon, je vais sortir, pour aller vers la terre promise. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Je pense qu'Abraham, en entendant ça, ne pouvait pas comprendre la suite. Mais la promesse était là. La descendance, encore, c'est Jésus. Et on voit que c'est Abraham qui est le premier, dans un sens, à croire à cette promesse, parce que c'est un verset qui est cité dans le Nouveau Testament, dans ce sens, Genèse 15, 6, où justement Dieu a demandé à Abraham de sortir de sa tente, de regarder vers le ciel, et dit « Compte les étoiles si tu peux les compter ». Il lui dit « Telle sera ta postérité ». Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Donc il a compté comme juste uniquement à cause de sa foi. Abraham n'avait rien fait pour le mériter. Au contraire, il n'était pas aussi parfait que ça. Hein. Il a menti. À sa femme, il faut dire que tu es ma sœur, hein, parce que j'ai peur qu'on me tue. Bon, enfin, des trucs comme ça en descendant en Égypte. Ce n'était pas un homme parfait, mais il a cru à la promesse de Dieu. Et cette promesse, c'est qu'il y aurait une descendance et que toutes les familles de la terre seraient bénies dans cette descendance, Jésus. Étape 4, le règne de Dieu et le peuple d'Israël. Donc on voit que ces promesses commencent, après Moïse, à se réaliser dans un peuple, le peuple d'Israël, le peuple de l'alliance de Dieu de l'Ancien Testament, qui avait accepté que Dieu soit le roi de ce peuple. Il devait rester séparé des autres, parce que les peuples autour, c'était pas, disons, c'était pas très humain ce qu'ils faisaient. Il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de violences, beaucoup de sacrifices d'enfants. On a trouvé beaucoup de traces de cela au niveau archéologique. On a du mal à comprendre qu'une famille puisse sacrifier un enfant, justement, pour chercher à avoir la faveur de ce Dieu. Hein, que, Notre fille vient d'accoucher, donc au mois de juillet, une de nos filles. Donc, quand on prend un petit bébé comme ça dans les bras, c'est extraordinaire. Mais que des peuples autour sacrifiaient des enfants, c'était horrible. Donc, ce peuple d'Israël devait vivre selon sa loi, la loi de Dieu, donc donnée dans Exode 20. Et j'ai mis sur la diapo Israël, le peuple élu de l'ancienne alliance, qui reconnaît le règne de Dieu, mais qui n'avait pas réussi, pour cause, à obéir parfaitement à Dieu. Le problème de la désobéissance du péché restait. Et Paul explique d'ailleurs dans Romains 3 et le verset 20 que Dieu a donné sa loi pour que l'on sache ce qu'il voulait, mais en même temps, je lis, personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc Dieu avait donné sa loi pour dire, c'est ça que je veux, mais sans illusion, parce qu'il savait qu'on n'arriverait pas à vivre parfaitement, mais au moins avec le don de la loi, personne n'avait plus d'excuses. Ce même texte au verset 19 dit, ainsi toute bouche sera fermée. Et tout le monde sera reconnu coupable devant Dieu. Mais ce peuple a cherché quand même à vivre plus ou moins pour Dieu. Ils ont bâti le temple, ils vivaient avec tous les sacrificateurs parce que Dieu a pourvu au pardon du péché par les sacrifices offerts au temple tous les matins, tous les soirs, tous les Shabbats, toutes les fêtes. Et selon Lévitique 17 et le verset 11, la vie d'un être est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait expiation. Et néanmoins, il y a une première concrétisation du règne de Dieu dans le peuple d'Israël. Et de beaux écrits, on peut penser aux psaumes par exemple, qui reprennent souvent cette notion de roi. Je lis un peu comme ça au hasard, je ne vais pas vous donner toutes les références. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, je dis, mon œuvre est pour le roi. L'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. L'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Bon là, j'ai cité déjà une dizaine de psaumes. Donc, au moins le peuple reconnaissait qu'en principe, l'Éternel était le roi de son peuple, qu'il avait en quelque sorte racheté en les faisant sortir de l'esclavage en Égypte pour les établir dans la terre promise. Étape 5. Mais malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple était tellement désobéissant que Dieu a suscité des prophètes. Et ces prophètes étaient là pour mettre le doigt sur les problèmes. Ils ont dénoncé continuellement le mal dans le pays. Un prophète, on l'appelle aussi un voyant, quelqu'un qui voit. Et qu'est-ce qu'il voyait? Ce n'était pas uniquement l'avenir, hein, parce que parfois on dit prophétie, ça veut dire futur, pas forcément. Il voyait clairement la situation du pays aussi. Il était lucide pour mettre le doigt sur le péché et pour le dénoncer, pour dire, si vous ne vous repentez pas, même si vous êtes le peuple de Dieu, vous allez partir en exil. Et c'est ça qui s'est passé. Le royaume du Nord, en 722 avant Jésus-Christ, le royaume du Sud, à Babylone, en 587 avant Jésus-Christ. Ils avaient annoncé que ce serait le cas. Et même si ils avaient annoncé aussi qu'ils reviendraient en Israël, dans la terre promise, s'ils le reconnaissaient, donc s'ils se repentaient de leur péché, ce n'était pas vraiment encore le règne de Dieu tel que Dieu le voulait. Il y avait encore une attente. Ils avaient annoncé le Messie. Donc je vais donner quelques versets là qui parlent de cela. En Jérémie 31, l'annonce d'une alliance nouvelle. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, donc maître ou roi. Et puis il annonce cette nouvelle alliance où Dieu pardonnerait leur iniquité. Dans Ésaïe 9, il parle aussi de ce Messie qui doit venir, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on dit que c'est pour donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Et on comprend que ce n'est pas David lui-même, mais celui qui va s'asseoir sur le trône de David par la suite, le roi d'Israël, le vrai roi, le Messie, qui va venir, dont il est question. Parce que le mot Messie signifie celui qui a reçu une onction d'huile, et cette onction d'huile, c'est surtout le roi. Mais donc le Messie était le roi qui devait venir. Et le moyen, on le lit en long et en large dans Ésaïe 53, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc on attend. On attend. On attend 4 siècles. 4 siècles. Et là, le peuple d'Israël est beaucoup plus fidèle. Il n'y a plus d'idolâtrie. Ils sont fidèles. Ils attendent 4 siècles. Donc ça veut dire qu'en termes de l'histoire de France, c'est depuis 1612 jusqu'à maintenant. Donc c'est du temps de la Réforme jusqu'à maintenant. 4 siècles, ils attendaient que ce Messie arrive. Et quels sont les premiers mots public de Jésus, les premiers mots qu'il a prononcés en prêchant, le moment est arrivé, le règne de Dieu est proche. Voilà. Jésus vient, il y a plein de textes où il parle du fait que le règne est proche. Il a dit tout au long de son enseignement, j'ai mis les paraboles, pourquoi? Parce que une grande partie des paraboles commence. Le royaume de Dieu ou le règne de Dieu ressemble à. Donc, une grande partie de son enseignement, c'est sur son règne. La parabole du semeur. Tout le monde ne reconnaît pas le règne de Dieu. La parabole de l'ivraie du bon grain. Le règne ne sera pas complet ou visible avant la fin du monde. La parabole des ouvriers de la dernière heure. Donc, c'est la grâce de Dieu. On ne peut pas mériter le fait de rentrer dans le règne de Dieu. Devant Pilate, dans Jean 18, Jésus a dit, oui, je suis un roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Son règne vient d'ailleurs, son règne vient du ciel. Et d'ailleurs, au-dessus de sa tête, on avait mis un petit écriteau sur la croix, hein, le roi des Juifs, en 3 langues. Donc, par sa mort, il a accompli les prophéties d'Ésaïe 53 concernant le salut. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Donc, le règne de Dieu peut commencer. Jésus a dit par exemple concernant Nicodème que s'il veut rentrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Il a dit à quelqu'un d'autre, tu n'es pas loin du règne de Dieu. Et le règne de Dieu, ça commence à mon avis vraiment au moment de la mort, de la résurrection, de l'ascension de de Jésus et la Pentecôte, où il y a sur la terre des chrétiens, des vrais chrétiens, nés de nouveau, sauvés, justifiés, déclarés justes, qui veulent vivre en acceptant Jésus comme roi. Alors, j'ai entendu l'expression cet été, je trouvais que c'était pas mal, que l'Église est une pâle copie du règne de Dieu, parce que nous ne sommes pas tous là où on devrait être. On a toute notre sanctification à vivre. Mais malgré tout, le règne de Dieu commence parce que les rachetés veulent glorifier Dieu sur la terre en vivant sous le règne de Dieu. C'est ça qu'on veut. On veut le reconnaître comme roi. 1 Thessaloniciens 2, 12. Nous vous avons exhorté, écrit Paul aux chrétiens de Thessalonique, nous vous avons exhorté, consolé, adjuré, donc il a plaidé avec eux, de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume. Et nous sommes citoyens donc de ce royaume, de ce règne de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 10, on aurait pu citer beaucoup d'autres textes, mais soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc on reconnaît que Dieu est vraiment le roi. C'est lui qui règne. Donc le règne de Dieu a commencé. Il était proche quand Jésus était sur la terre, parce qu'il est venu justement pour inaugurer ce règne de Dieu dans la vie de ceux qui l'acceptent comme sauveur et comme Seigneur. La huitième étape, dernière, où le règne de Dieu sera éternel et sans contestation. Sans contestation. Apocalypse 11 et le verset 17. Le Seigneur Dieu, Seigneur de Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était. Nous te disons notre reconnaissance que tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. Apocalypse 12. Alors j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Là, il sera vraiment roi, on sera transformé, on sera auprès de lui. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous allons lire quelques versets par rapport à cela, nous n'aurons plus à lutter comme aujourd'hui pour remporter des victoires pour qu'il soit le roi. On va le reconnaître. Il n'y aura plus de larmes, plus de luttes, plus de combats. Nous, son peuple, le rejoindra dans la nouvelle création parfaite. Dans Apocalypse 21, le verset 1, donc on arrive à la fin de la Bible, après ce parcours très très rapide. L'apôtre Jean dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc ça, c'est notre espérance. J'avais dit la dernière fois que dans la Bible, on ne dit jamais pour les chrétiens que nous irons au ciel à notre mort. Donc, parce que le ciel, c'est la demeure de Dieu. On dit qu'il y aura une nouvelle création, un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. On le voit aussi dans Ésaïe, on le voit dans 2 Pierre. Et le verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Il y a toute une description imagée de pierres précieuses et tout ça. Et au chapitre 22, les versets 3 et 4, on dit, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Et verront sa face. Son nom sera sur leur front. Donc, quand on dit le trône de Dieu sera dans cette ville qui descendra sur ces nouveaux cieux et nouvelle terre, il ne faut pas imaginer que ce sera exactement comme la terre actuelle, les cieux actuels. On n'en sait rien. J'espère qu'on aura toujours la possibilité d'écouter Bach, mais bon, ça c'est mon idée, parce que c'est tellement beau. Mais bon, on ne sait pas comment ce sera. Mais ce que l'on sait, c'est que le trône de Dieu et de l'agneau, un seul trône, hein, c'est un petit clin d'œil trinitaire, hein, un seul trône pour le Père et le Fils, sera au milieu de cette nouvelle création. Donc Dieu régnera parfaitement. Et son règne sera sans contestation. Je n'ai pas mis le verset à l'écran. Bonjour. C'est ça. Dans Ésaïe 52, quand on annonce la bonne nouvelle, verset repris dans le Nouveau Testament, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Donc, on a tous besoin de pédicures spirituelles, hein, pour que nos pieds soient beaux parce qu'on apporte l'annonce de la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu règne. Bon, on peut dire que c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne l'acceptent pas, mais pour ceux qui acceptent cela, donc qui se repentent, le pardon est là. Et Dieu peut devenir vraiment notre roi. Et donc, je termine avec cette petite remarque. Donc, psaume 96, dites donc parmi les nations, l'Éternel règne. Je reviens. C'est là où nous sommes actuellement. À l'étape 7. 6 étapes se sont passées. Une étape reste à faire. Nous sommes à l'étape 7 avec le vœu de Dieu que les rachetés le glorifient sur la terre en vivant déjà sous son règne. Donc, ça, c'est la prière de Jésus. Je reviens au début. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux.